EPJ 327 raconta à CKZ-114 l'interrogatoire qu'il avait subi. « Vous voyez, dit-elle, il ne faut pas que vous connaissiez mon nom. » Elle connaît désormais le mien, mais cela, il est clair qu'elle s'en fiche. Vous êtes l'unique obsession de la Capuce d'Héna. C'est un privilège dont je me passerai volontiers. Je suis sûre que vous pourriez en tirer avantage. Je préfère ne pas comprendre le sens de vos paroles. Je ne le disais pas de façon humiliante. Vous n'avez pas idée de l'estime que j'ai pour vous, et je vous sais gré de me l'inspirer. Je n'ai jamais eu autant besoin d'estimer quelqu'un depuis que nous sommes dans cet enfer. Moi, je n'ai jamais eu autant besoin d'avoir la tête haute. C'est la seule chose qui me soutienne. Merci. Votre orgueil est le mien. J'ai l'impression qu'il est aussi celui de tous ici. Il ne se trompait pas. Les prisonniers avaient également leurs yeux aimantés par sa beauté. Savez-vous que les propos les plus sublimes sur la gloire cornélienne ont été écrits par un juif français en 1940 ? Dit encore EPJ 327. « Vous étiez professeur ?» demanda la jeune fille. « Je le suis toujours. Je refuse d'en parler au passé. » « Alors, Capuce d'Héna, tu as recommencé à tabasser ces CKZ ?» rigola le capot Jean. « Oui, » dit-elle, sans remarquer qu'on se moquait d'elle. « Elle te plaît bien, hein ?» demanda le capot Marco. « C'est vrai, » répondit-elle. « Tu adores la cognée, tu peux pas t'en passer. » Zdena réfléchit très vite. Elle eut l'instinct de mentir. « Oui, j'aime ça. » Les autres rirent grassement. Zdena pensa qu'il y avait 2 semaines, ce n'eût pas été un mensonge. « Je peux vous demander quelque chose, les gars ? » s'inquit-elle. « Et c'est toujours. » « Laissez-la moi. » Les capots eurent l'air de rire. « D'accord, Capuce d'Héna, on t'a laisse, » dit le capot Jean. « À une seule condition. » « Laquelle ?» interrogea Zdena. « Que tu nous racontes. » Le lendemain, aux travaux du tunnel, CKZ-114 vit s'approcher d'elle la Capuce d'Héna, schlag à la main. La caméra se braqua sur cette paire de filles qui obsédait les spectateurs. Panonique redoubla d'efforts, sachant que ce zèle ne lui éviterait rien.
« Tu es une mauviette, CKZ-114 !»
hurla la capot. Une pluie de coups de schlag s'abattit sur la prisonnière. Aussitôt, Panonique s'aperçut qu'elle ne ressentait rien. La schlag avait été remplacée par une imitation inoffensive. CKZ-114 eut le réflexe de feindre la douleur retenue. Ensuite, elle eut un bref regard en direction du visage de la capot. Elle y lut une intensité significative. La bourrelle était à l'origine de ce secret et ne le partageait qu'avec sa victime. L'instant d'après, Zdena redevint une capot ordinaire, gueulant sa haine. Après une semaine de fausse schlag, la capot Zdena reposa sa question à CKZ-114. « Quel est ton prénom ?» Panonique ne répondit rien. Ses yeux sondèrent ceux de l'ennemi. Elle saisit son lot de gravats et les apporta sur le monceau commun. Puis elle revint remplir sa bassine de déblayage. Zdena l'attendait, l'air insistant, comme pour lui signifier que son traitement de faveur méritait une récompense. « Comment t'appelles-tu ? » Panonique réfléchit un instant avant de lui dire « Je m'appelle CKZ-114 ». C'était la première fois qu'un capot l'entendait parler. À défaut de donner son nom à Zdena, elle lui offrait un cadeau inespéré, le son de sa voix. Un son sobre, sévère et pur, une voix d'un timbre rare. Zdena s'en trouva si décontenancée qu'elle ne remarqua pas la réponse biaisée. La capot ne fut pas la seule à noter le phénomène. Le lendemain, nombre de chroniqueurs titraient « Elle a parlé. » Il était rarissime qu'un prisonnier parle. À plus forte raison, aucun média n'avait encore pu capter la voix de CKZ-114. D'elle, on n'avait pu entendre que de vagues gémissements sous les coups. Là, elle avait dit quelque chose. « Je m'appelle CKZ-114. » Ce qu'il y a de plus singulier dans cet énoncé, écrivit un journaliste. C'est le jeu. Ainsi, cette jeune fille qui, sous nos yeux consternés, subit la pire infamie qui soit, la déshumanisation, l'humiliation, la violence absolue, cette jeune fille que nous verrons mourir et qui est déjà morte, peut encore fièrement commencer une phrase par un « je » triomphant, une affirmation de soi. Quelle leçon de courage! Un autre quotidien en tirait une analyse opposée. Cette jeune femme clame publiquement sa défaite. Elle prend enfin la parole, mais pour s'avouer vaincue, pour dire que l'unique identité dans laquelle elle se reconnaisse désormais est ce matricule de l'horreur barbare. Aucun média ne saisit la véritable nature de ce qui s'était passé. L'action n'avait eu lieu qu'entre ces deux filles et n'avait de sens que pour elles. Et cette signification gigantesque était « J'accepte de dialoguer avec toi ».